Vous vous souvenez de la bibliothèque verte, ces livres qu'on lisait quand on était petit avec leur couverture cartonnée, qu'on mâchonnait volontiers, leur parfum si singulier de papier recyclé, ces livres d'aventure et de récréation au tirage vertigineux dont la simple évocation suffit encore aujourd'hui à produire du plaisir, de la nostalgie, de l'amitié. Il me vient ce matin le rêve d'une autre bibliothèque verte, une bibliothèque qui prend chez moi de plus en plus de place entre deux thrillers écolos, trois classiques aventuriers, des éco-fictions, il paraît que c'est leur nom, et de plus en plus d'essais, plus verts que jamais, des livres où la nature n'est plus seulement un décor ou un milieu, des livres où elle fait personnage, où elle irrigue la narration et le langage, où elle donne à penser le lien entre l'homme et le monde. Dans cette bibliothèque verte, il y aurait Léo de Hurlevent d'Emily Brontë et puis Thomas Hardy, Loin de la foule déchaînée, mais aussi un essai de Taureau, Into the Wild, Délivrance, du Cyril Dion, du Sequoia Island, il y en aurait plein d'autres, de ces livres qui prennent de plus en plus de place sur mes étagères et dont je me dis qu'ils remplissent une fonction d'éducation et de récréation, ce qui était la mission de la Bibliothèque Verte à l'origine dans les années 20. Imaginez une autre, une nouvelle Bibliothèque Verte qui produirait plus tard le même sentiment de plaisir, de nostalgie, d'amitié. Bah quoi, on peut toujours rêver.
Boomerang, Augustin Trapenard.
Bonjour à tous, bienvenue dans Boomerang. Mon invité d'aujourd'hui n'est pas si éloigné du roman de l'écologie et des bibliothèques vertes si on y réfléchit. Il se trouve par ailleurs qu'elle est la romancière préférée des Français. Ses livres s'arrachent par centaines de milliers et elle caracole en tête des ventes. Son cinquième roman, La cerise sur le gâteau, paru en mars, est déjà un immense succès de librairie. Elle nous y raconte notamment la verte reconversion d'un jeune retraité. Bonjour Aurélie Valogne.
Bonjour Augustin.
Merci beaucoup d'être là ce matin avec nous. Ça vous parle, vous, l'idée d'une bibliothèque verte?
Ça me parle, et en plus les titres que vous avez cités, mais je suis fan absolue, Sequoia Island, je l'ai offert, à chaque fois on me dit mais tu es vraiment complètement taré d'adorer ce livre, je l'adore, La route de McCarthy,
c'est
des textes qui sont très éloignés de ce que j'écris, mais qui me touchent profondément.
Et ce sont des textes dont on ne dira rien évidemment pour les auditeurs et auditrices qui ne les auraient pas lus, mais qui ne vont pas sans bouleversement, sans changement de vie, radicaux, dans l'intrigue également. Quand est-ce que vous avez su, vous, qu'il fallait changer de vie? Tiens.
Oh, c'est vrai que c'est une grande question. Je crois que voilà, il y a un jour, c'est un peu le destin qui nous emporte. Et j'ai eu la chance d'avoir mon mari qui m'a dit bah voilà, je suis mutée à l'étranger. Tu me suis, on venait d'avoir un petit bébé, et bien évidemment, on est une famille, je peux pas dire, bah non, ça m'embête. En
plus, c'était l'Italie. Vous pourriez, mais vous l'avez pas fait.
Non, je l'ai pas fait. Donc, pourquoi ça m'aurait embêté d'aller en Italie? Juste parce qu'effectivement, ça veut dire, bah, abandonner mon travail. Et,
vous faisiez quoi avant d'être écrivain?
Alors, je travaille dans une grande entreprise américaine, et plutôt une partie commerciale. Donc, vraiment rien à voir. J'avais jamais écrit une ligne de toute ma vie avant mes 30 ans.
Et, pourtant, vous en aviez envie?
Ah ouais, j'en avais très envie.
Alors, qu'est-ce qui vous retenait?
Mais en fait, moi je viens d'un milieu très très populaire, où voilà, on a appris très tôt la valeur de l'argent, un sou c'est un sou, et en fait écrivain, quand j'ai cette révélation à 6 ans, je l'écris à ma grand-mère sur une carte postale, mémé je sais ce que je veux faire quand je serai grande, je veux être écrivain, très vite je l'oublie, parce qu'en fait c'est un métier trop précaire, qu'il n'y a pas d'école pour être écrivain, on ne sait même pas si j'aurai du talent, mais c'est vrai que l'écriture m'avait toujours plu, j'écrivais des lettres de 17 pages à mes meilleurs amis, dès qu'on était séparés, quasiment tous les jours, et après, très vite, j'ai oublié d'écrire. Et en fait, c'est revenu d'un coup, quand j'ai eu un coup dur personnel dans ma vie. Et j'ai eu cette... je voyais ma propre tombe, marquée Aurélie Valogne, et en dessous, écrivain. Et là, quand on fait un métier tout autre depuis presque 10 ans, on se dit, mais d'où ça sort? Et en fait, c'est à ce moment-là où on se dit, bah, je crois que si la vie doit s'arrêter pour moi demain, il faut que j'accomplisse ce rêve-là.
Alors, comment s'est opérée la transition, Aurélie Valogne, de votre vie de commerciale expatriée à celle d'écrivain? Comment ça s'est passé?
Ça s'est passé de manière très, un peu scolaire. Moi, j'ai toujours aimé l'école. Et là, j'ai cherché comment écrire un roman. J'ai ouvert mon ordinateur. J'ai tapé sur un moteur de recherche atelier d'écriture. Je suis tombée sur un tuto de Bernard Werber qui donne 10 conseils pratiques que j'ai appliqués à la lettre. Et je me suis laissée emporter par, voilà, une histoire que j'avais un peu en moi depuis longtemps, qui partait d'une injustice. Le fait qu'on abandonne un peu nos ancêtres et les personnes âgées aujourd'hui, qu'on ne sait pas les inclure. Et donc j'ai écrit Mémé dans les orties comme ça, vraiment à tâtons et en suivant mon instinct.
Ce qui est intéressant, c'est que ça va de pair aussi avec un changement de vie radical. Et c'est là où on y revient à l'écologie, au vert, partir vivre en Bretagne, quitter l'Italie et la région parisienne pour vous trouver au plus proche de la nature. Quel genre de transition est-ce que ça a été pour vous? Quel genre de changement de vie?
Ah, ça a tout changé. C'est vrai qu'en Italie, on y restait 5 ans avec mon mari et j'ai continué à avoir un travail là-bas. J'avais repris une activité vraiment très, pas très forte, au point où j'en ai fait un épuisement professionnel, comme on dit.
un burn-out,
ouais. Voilà. Et donc, ça m'a aussi nourrie pour ce nouveau roman. J'étais pas du tout partie. Enfin, j'ai 36 ans, je suis pas censée écrire sur la retraite. mais en fait, j'ai vraiment eu l'impression de tourner une page, d'avoir tellement ce luxe d'avoir du temps, de pouvoir lire le journal tous les jours, prendre des notes, observer, me poser dans mon jardin, écouter les oiseaux, m'inspirer, ralentir. Voilà, j'ai vraiment eu cette impression d'être moi aussi un peu à la retraite, sachant que je continue à écrire à côté, mais ça a été un changement de vie très bénéfique.
Évidemment, si je vous pose ces questions, Aurélie Valogne, c'est parce que c'est pas son lien avec votre dernier roman, La cerise sur le gâteau, où un certain Bernard, jeune retraité, ancien cadre Dynamite et accro au travail, va donner un sens à sa retraite grâce à l'écologie. Ce personnage, comment il est né, en fait ?
Alors, il est né de l'observation de ma famille, comme toujours chez moi, notamment de mon papa et de mon beau-père, qui ont deux approches très différentes. Mon papa a hâte d'être à la retraite, alors que mon beau-père, il fallait presque le forcer, le fouetter pour qu'il puisse s'arrêter, parce qu'il se sentait aussi, il est encore en activité.
Mais il y a un peu de vous aussi, non ?
Et il y a beaucoup de moi. Il y a
le côté bougon, évidemment.
Mais moi, j'adore les bougons, j'ai une grande tendresse, je suis une vraie râleuse. Mon mari dit une ado rebelle continuellement, mais effectivement, il y a beaucoup de moi. Et ce Bernard, finalement, je le voulais passionné de jardinage, une fois à la retraite, voilà, qui se trouve une petite activité. Mais comme c'est un mégalo qui il a toujours tout fait en grand, il ne pouvait pas juste s'occuper de son jardin. Il fallait qu'il prenne conscience que la planète commençait à exploser et que maintenant qu'il avait du temps, peut-être c'était là qu'il devait mettre son énergie pour assurer un meilleur avenir pour son petit-fils.
Alors justement, votre transition verte à vous, Aurélie Valogne, par quoi elle est passée ? Par quel geste, en fait, sans réfléchir, ce que vous faites aujourd'hui ?
Il y en a beaucoup, mais c'est vrai que ma conscience écologique, ma prise de conscience, en tous les cas, elle s'est faite récemment. Moi, je mangeais bio depuis que j'ai des enfants, donc depuis 6 ans, parce que j'avais peur d'attraper un cancer, mais pas du tout parce que c'est mieux pour la planète. Et là, c'est vrai que depuis juillet de l'année dernière, où j'ai commencé vraiment à m'intéresser à ce sujet-là, je me suis pris une énorme claque. Moi, j'ai fait même une phase un peu, je ne vais pas dire de dépression, mais où j'étais vraiment au fond du gouffre. Et pour écrire en parallèle, c'était très, très dur, parce que j'ai ressenti l'urgence, j'ai ressenti que c'était compliqué. Et donc, les petits gestes au quotidien, maintenant que je fais, je continue de manger bio évidemment, j'achète tout en vrac. À Noël, j'ai fait comme Bernard dans le livre, j'ai offert le kit zéro déchet à toute ma famille, des brosses à dents en bambou, des mouchoirs en tissu. Ils m'ont regardé genre, et les protections périodiques aussi. Voilà, je suis ben aussi oui. Ayatollah un peu. Ben et, mais en même temps, je veux pas être donneuse de leçons et mon rôle dans ce roman, ça ne sera jamais de dire faites comme moi, c'est pas l'idée, mais de juste prendre conscience et que Il y a des gestes que l'on fait qui n'ont pas de sens.
Mais c'est intéressant ce que vous dites au regard de votre personnage qui voit les choses toujours plus grand. Parce qu'en écrivant ce livre, je me suis demandé, c'est intéressant, dans quelle mesure, quand on est écrivain, est-ce qu'on espère être transformé par ce qu'on écrit et transformer aussi le monde ?
Alors ça, c'est vrai que moi, je crois que ma première volonté n'a jamais été d'être éditée, n'a jamais été d'avoir des lecteurs. Moi, je me voyais écrivain pour me raconter des histoires. Oui. Je trouve que dans le monde, voilà, il y a des choses qui me tiennent à cœur, que je trouve injustes, et par les livres, ça me console et je trouve une fin un peu plus optimiste. Il se trouve que ça a plu aux lecteurs. Et aujourd'hui, je continue comme ça. Et là, pour le coup, Bernard m'a vraiment rattrapée parce que en apprenant sur tout ce monde du zéro déchet, etc., eh ben, je suis devenue Bernard. Et c'est la première fois qu'un personnage me transforme autant.
Et puis, vous allez transformer, je suppose, certains de vos lecteurs et certaines de vos lectrices, parce que vous le savez, Aurélie Valogne, vous êtes lue par des centaines de milliers de personnes.
Oui, c'est assez extraordinaire. Et c'est vrai qu'il y a des lecteurs qui sont, moi, je suis très touchée quand ils viennent me voir en dédicace et qui me disent, grâce à vous, j'ai repris le goût de la lecture. J'avais toujours pensé que je détestais ça.
Mais est-ce que ça vous a investi de nouvelles responsabilités?
Alors, en vrai, maintenant, je me pose la question. Avant, je mettais mes propres messages et sur le thème de l'écologie, je me suis mis une certaine pression parce que je me disais, quand on est lu par plus d'un million de personnes, et c'est vrai qu'avec l'édition Poche, ça va très très vite, s'il y a une personne sur 100 qui change ses petits gestes au quotidien, j'aurais peut-être gagné quelque chose.
Et puis, on fait attention à ce qu'on écrit aussi, on fait attention, par exemple, à ce que ça se termine bien. Parce que je sais que le happy end chez vous, c'est extrêmement important, c'est pratiquement une théorie de vie.
Alors, je suis très optimiste, mais j'ai pas forcément besoin d'un happy end.
Oh.
Non. Parce qu'en fait, par exemple, dans Au petit bonheur, la chance, moi, qui est donc mon quatrième roman, c'est un de mes romans les plus sombres. Il se passe dans les années 60. C'est un enfant qui est abandonné par sa maman et confié à sa grand-mère. Et on le suit pendant tout ce roman et il lui arrive vraiment des coups durs. Moi, je n'écris jamais avec bienveillance pour le lecteur. Mais par contre, je suis en empathie énorme avec mon personnage. Je pleure en écrivant. J'explose de rire en écrivant. Et après, j'essaye de faire en sorte que le protagoniste évolue pour le mieux.
Voilà,
pour
c'est
moi,
ça.
Pour me consoler. Mais le happy end, je le cherche pas à tout prix.
Ça veut dire que la vie est décevante et que la fiction peut rattraper, peut...
Pour moi, oui. Enfin, ouais. Décevante, j'en sais rien, mais elle est très sombre et dans les livres, on y trouve une lumière.
À quelle occasion la vie vous a déçu, vous, Aurélie Valogne ?
Non, mais je pense que c'est compliqué. Voilà, moi, j'ai eu l'impression que souvent dans ma vie, on m'a dit, bah non, ce n'est pas pour toi, parce que tu viens d'un milieu populaire, parce que tu es une femme, et j'ai l'impression qu'il faut se battre tout le temps. Et dans les livres, au moins, tout est possible.
Vous diriez que l'écriture vous a rendu meilleure ?
J'essaye. Je me pose beaucoup plus de questions qu'avant. J'ai plus le temps aussi. Et c'est vrai qu'à chaque roman, j'ai l'impression de faire un travail sur moi.
Heureuse, en tout
ouais,
cas.
Oui, très, très heureuse. Ouais.
Bah, celle qui n'est pas heureuse dans cette émission et qui ne fait le bonheur de personne, peut-être que vous la connaissez, Aurélie, c'est évidemment La Culture. Et son actualité rabat-joie tue l'amour et qui ne pense qu'à elle par-dessus le marché. Que se passe-t-il donc aujourd'hui, jeudi 13 juin ?
Bienvenue à l'Art Basel. La plus grande manifestation d'art contemporain au monde.
Du beau, du bon, du Basel, c'est aujourd'hui que s'ouvre à Bâle, en Suisse, la 49e édition de la Foire internationale d'art contemporain Art Basel, dans un contexte dynamique, près de 6% de croissance des ventes d'œuvres d'art en 2018. La manifestation accueille près de 300 galeries venues de 35 pays, avec cette année une manifestation placée donc sous le signe de la diversité et de l'égalité. On y trouvera notamment la Britannique Antea Hamilton, première femme noire à avoir créé une œuvre pour la Tate Britain, ou encore l'Espagnole Alicia Framis et ses robes airbag inspirées par Me Too.
Est-ce là ton pays, Tom ? Ces tours magnifiques, toutes ces lumières.
Le prince d'Annecy, pionnier du cinéma d'animation à la française, Jean-François Laguillonni a été récompensé hier au Festival d'Annecy d'un cristal d'honneur pour l'ensemble de sa carrière. On lui doit notamment Les Sensibles et Élégants, Le Château des Singes ou L'île de Blackmore. Jean-François Laguillonni a été récompensé à l'occasion de la projection en avant-première mondiale de son nouveau long-métrage Le Voyage du Prince, un conte philosophique sur l'exil et la nature salué par une longue standing ovation. Bravo Hugo.
Le polar, c'est vraiment pour tout le monde. Et 90% de ce que je raconte, c'est tiré de faits divers réels.
Norek Impec, le 42e prix du relais des voyageurs lecteurs, a été remis hier soir au nouveau polar d'Olivier Norek, Surface, paru chez Michel Lafon, déjà auréolé du prix de la Maison de la Presse 2019. Le roman met en scène une capitaine de police judiciaire confrontée à la réapparition d'un enfant disparu 25 ans auparavant. Choisi par un jury composé de professionnels du voyage, de journalistes, d'écrivains, Olivier Norek a choisi d'offrir la récompense de son prix à l'association Bibliothèques sans frontières qui œuvre pour l'accès à la connaissance de celles et ceux qui en sont privés et dont je suis le parrain. Cœur avec les mains.
Bientôt j'arrête tout ça, maman. Bientôt je change de vie. J'ai du mal à le dire à baba. Entre bonhomme, on se devine. Bientôt j'arrête tout ça, maman. T'en fais pas pour moi.
Et maintenant, Champagne, le festival Magnifique Society investit dès ce soir le parc de Champagne à Reims pour 3 jours de teuf en plein air. En tout, 3 scènes qui promettent de bouncer sous les assauts du rock chic, de Franz Ferdinand, du hip-hop dark, du phénomène sud-africain The Antwood ou du rap punchliné de Nekfeu. Dans le reste du programme, Chris, Romeo Elvis, Parov Stellar, Flavien Berger, Fat White Family ou Columbine, bref que de la balle. Let's party! Et la romancière Aurélie Valogne, invitée de Boomerang ce matin pour parler de ce dernier roman, La cerise sur le gâteau. Un roman dans lequel on retrouve cet attachement de toujours que vous avez à la famille. Dans quel genre de famille est-ce que vous avez grandi, vous ?
J'ai vécu dans une famille, je dirais, où il y a toujours eu de l'amour, toujours eu des valeurs qui ont été voilà, très saines pour moi. L'école, le travail, voilà, l'argent, ça se gagne, ça se mérite, ça s'épargne aussi. Voilà, une famille, je pense, où j'ai été très très heureuse. Mes parents ont divorcé assez tôt, mais je ne l'ai pas du tout vécu comme un traumatisme. Je savais que j'étais aimée des deux côtés.
Et puis il y avait la grand-mère, il y avait mémé.
Et il y avait, voilà, effectivement, mais l'importance de mes grands-parents est fondamentale. Ma grand-mère, ça a été la première personne, et je crois qu'elle m'écoute ce matin.
Mémé, on t'embrasse, et on ne te poussera pas dans les orties.
elle
est mauvaise, cette blague, pardon.
Non, pas de souci, elle nous pardonnera. et donc, effectivement, c'est elle qui m'a offert mon premier livre à 6 ans, c'était L'Histoire sans fin. Et après, elle m'a offert aussi mon premier stylo. Qui m'a suivi. Mais c'était un livre que je voulais absolument lire. Je pense que c'était la mode à l'époque où il venait de sortir. Et donc voilà, donc un attachement très très fort, voilà, des valeurs. On a passé des moments très complices. Ça m'a beaucoup. Et aujourd'hui encore, elle m'aide beaucoup à comprendre mes propres enfants. Elle me dit, mais attends, ça, s'il est comme ceci, c'est peut-être pour telle et telle raison. Et je trouve que souvent, on n'écoute pas assez nos aînés. Et ils ont tout vécu.
À la toute fin de la cerise sur le gâteau, vous écrivez qu'il y a des questions que vous n'avez jamais osé lui poser. Quelles questions ? Qu'est-ce que vous aimeriez savoir ? Tiens.
Un peu toute sa vie.
Ça, on n'en parle pas.
Pas trop.
Vous êtes tellement émue, Aurélie. Moi aussi, j'ai plein de questions que je n'ai pas posées à ma grand-mère. Il faut les poser, hein, parce qu'après, c'est trop tard.
Je sais.
Mais surtout, Aurélie, quel rôle est-ce qu'elle a eu dans votre appartenance, en fait, au milieu de la littérature, dans votre goût pour la lecture? Effectivement, c'est elle, vous le disiez, qui vous a offert L'Histoire sans fin. Quel souvenir, par exemple, est-ce que vous en gardez de ce livre? Vous lui en parliez à elle?
J'ai eu l'impression quand même que la lecture, ça a toujours été mon petit domaine de prédilection où je choisissais mes œuvres. Après, c'est vrai qu'à la maison, elle et mon grand-père, ils avaient la collection complète, justement, Bibliothèque Verte, Bibliothèque Rose. Mais je crois que j'ai lu surtout la Bibliothèque Verte. Et donc, ça a été mes premières lectures. Et après, elle m'a conseillé, par exemple, Couleur pourpre, voilà, des textes plus, je dirais, plus marqués, qui traitent de sujets plus importants. Après, c'est vrai que pour la lecture, ça reste un plaisir un peu perso.
Qu'est-ce que vous en gardez de L'Histoire sans fin? Vous l'avez encore, cet exemplaire, ce livre?
Oui, je l'ai encore. Il est chez ma maman, je dois avouer, mais je sais très bien où il est rangé. C'est un grand, une certaine fierté, parce qu'on m'avait encore dit, non, mais c'est pas pour toi, c'est un livre, il est très épais. Toi, t'es en CP, tu sais pas encore lire. Et avant la fin du CP, je l'avais fini. Et ça a été que le premier d'une très très longue série qui ne s'arrêtera pas tout de suite.
Et Les quatre filles du docteur March, que vous mentionnez dans La cerise sur le gâteau, qu'est-ce qui vous plaisait dans ce roman de Louisa May Alcott?
Je pense que c'est un des romans un peu fondateurs de beaucoup de personnes, et peut-être j'ai envie de dire femmes. On y retrouve l'héroïne Jo, qui est tout du garçon manqué, voilà, justement quelqu'un à qui on explique que non, il faut bien se tenir quand on est une femme, non, avoir un métier, c'est être écrivain, c'est pas pour les femmes, même être journaliste. Et en fait, forcément, c'était un peu mon pendant, et elle avait beaucoup de courage, et j'adore cette scène où par amour pour son père, elle coupe tous ses cheveux.
Est-ce que vous pensez, Aurélie Valogne, qu'aujourd'hui, en 2019, les livres ont toujours le pouvoir d'inspirer les jeunes lecteurs, de les faire rêver autant qu'ils faisaient rêver les gens de notre génération?
Moi, je pense qu'effectivement, il y a beaucoup de choses qui arrivent d'abord par les livres ou par les histoires qu'on se raconte ou qu'on nous montre, même dans les séries ou dans les films, qui finissent par arriver pour de vrai dans la réalité. Je pense par exemple à un président noir qu'on a vu dans Le Cinquième Élément. Je pense à Hergé qui nous a prouvé avant tout le monde qu'on pouvait aller sur la Lune, et ça nous a donné envie d'y aller. Donc c'est aussi pour ça, quand j'écris certains livres, et notamment La cerise sur le gâteau, où ça parle d'un espoir, où si chacun fait sa part aujourd'hui, on peut réinverser ce mauvais pas dans lequel on est embourbé, j'ai l'espoir que plus de personnes prennent conscience. Et c'est vrai que ce livre, je l'ai écrit il y a un an, et quand on voit les résultats des dernières élections, je suis contente de ne pas me sentir la seule.
Alors, on ne dira rien, évidemment, mais là, je vous comprends, moi, évidemment. Comment on fait pour donner le goût de la lecture, en fin de compte, dans un monde saturé d'images, saturé d'écrans, dans un monde où tout va trop vite? Le goût aussi de la lenteur, Aurélie.
Je ne sais pas s'il y a une recette miracle pour donner le goût de la lecture. Moi, je sais que j'écris d'abord avec mon cœur et pas tellement avec ma tête. Ce que j'essaye surtout de faire, c'est communiquer des émotions, être dans la simplicité, être accessible aussi, employer le mot juste sans tomber dans la phrase qui sonne bien, qui fait un peu prout-prout. J'ai vraiment envie tout de suite que on s'imagine que ça se déroule comme un film, comme une série, et c'est très rythmé, des chapitres courts comme on a besoin aujourd'hui et qui racontent notre propre vie.
Et en même temps, vous ne chômez pas, hein, vous travaillez. Effectivement, après tout, vous sortez un livre par an, vous en assurez ensuite la promotion. On n'est pas vraiment dans l'application stricte d'un éloge de la lenteur, là, pour le coup.
Non, pas du tout, mais j'ai quand même l'impression d'avoir le droit et le temps de pouvoir me rêvasser, m'émerveiller. Je me pose dans mon jardin, j'écoute les oiseaux, et en même temps, quand je divague comme ça, je suis en train de repenser à mon sixième roman et à mon personnage principal. Donc je suis toujours en ébullition, mais c'est un luxe incroyable, je le sais, que de pouvoir prendre le temps.
Alors on va en reparler de temps et on va le prendre surtout le temps à parler de rêve aussi, de lecture, mais aussi de plaisir juste après, un peu de lenteur justement, de permanence, de constance. On écoute Cyndi Lauper, Time After Time, c'est une chanson de 1983 sur l'album She's So Unusual, je crois. Vous êtes sur France Inter avec Aurélie Valogne, vous écoutez Boomerang.
Sur France Inter. Augustin Trapenard.
Elle est là, il n'y a pas de doute, elle est là. Et elle se tient bien droite sur sa chaise, les mains sur la table, le regard attentif, confiant, avec un brin d'espièglerie bretonne, le cheveu balayé, blond, le sourire sincère, quoiqu'un brin moqueur, parfois, quelque part entre une version adulte de la Wendy de Peter Pan et la première de la classe qui squatte le dernier rang, c'est en mâchant du chewing-gum, en dessinant sur les tables. Elle a mis ce matin une jupe plissée, dorée, c'est un feu d'artifice dans le studio. La romancière Aurélie Valogne, invitée de Boomerang ce matin, donc pour la cerise sur le gâteau, votre cinquième roman. Aurélie, j'aimerais qu'on revienne quand même sur la manière dont ça a commencé. Pourquoi vous aviez envie d'être lu, en fin de compte? Parce qu'il y a bien un moment donné où on a envie d'être lu. C'est ce qui fait la différence, non?
Oui, moi je crois que c'était pour pas me sentir seule. J'avais envie d'être lue parce que j'avais une espèce de rêve de me dire, mais je rêve d'un monde où nos aînés sont plus impliqués dans notre vie, dans notre quotidien, et j'ai l'impression que ça n'embête personne sauf moi, qu'on les laisse vivre tout seuls dans des appartements, ou dans des maisons de retraite, et qu'on ne leur rende plus visite, et qu'on se dise c'est trop tard. Donc le premier roman, Mémé dans les orties, parlait de ça, parlait de comment réintégrer nos aînés dans notre vraie vie.
Et les premiers textes que vous ayez écrits, très jeune, du coup, il parlait de quoi?
J'ai pas écrit. J'ai quasiment pas écrit, c'est-à-dire que...
Vous me parliez des lettres de 17 pages.
Oui, c'était des lettres. C'était, on se racontait, je pense, nos vies, etc. Mais après, moi, j'ai un souvenir très ému de, je pense, en cinquième ou en quatrième, où on nous fait lire Alan Edgar Poe, et on nous demande voilà, d'improviser une nouvelle fantastique dans le style, et que là, je me lâche complètement.
C'est Edgar Poe qui vous a enseigné.
Ouais, ouais. Et je me lâche complètement et je me rends compte très rapidement que j'adore ça. Mais je crois que j'ai dû le faire que 2 années dans toute ma scolarité.
Ça veut dire, Aurélie Valogne, que vous saviez rien en fait de ce qu'il fallait pour écrire un roman quand vous vous êtes lancée?
Bah rien du tout, mais j'ai jamais appris. Moi j'aurais adoré faire une prépa cagne-hypocagne. Sauf que comme j'étais pas certaine de ce que je voulais faire après, que j'hésitais entre trop de choses, entre publicitaire, entre un journaliste, enfin vraiment j'avais décoratrice d'intérieur, styliste, enfin vraiment je voulais créer, je crois. Je me suis pas autorisée à suivre mon rêve, donc je me suis dit, bah tiens, je vais prendre la voie du milieu. économie.
N'empêche, vous avez trouvé une bonne solution puisque ça a marché tout de suite. Est-ce que, c'est quoi la clé pour écrire un bon roman? Peut-être que vous le savez.
La clé pour écrire un bon roman, alors je ne sais pas si on, voilà, s'il y a une clé. Maintenant, pour moi, je suis restée authentique. C'est-à-dire que je n'ai pas essayé de prendre une posture. Les expressions, par exemple, idiomatiques qui peuvent être associées à mon nom, ça n'a jamais été un truc marketing. Je veux dire, dans ma famille, ma grand-mère notamment, mon grand-père aussi, ma mère,
on les
utilise à tout bout de champ, mais vraiment. Et donc, pour moi, quand je pense à mes grands-parents, je ne pouvais pas ne pas les mettre ces expressions.
Pourquoi est-ce que vous êtes passée par l'auto-édition, Aurélie?
Ça a été un peu un hasard, un heureux hasard, je dirais. En fait, voilà, j'ai écrit mon premier roman en quatre mois, et après j'ai retrouvé un travail en Italie. Et j'ai eu peur, en fait, que ce roman que j'avais pas du tout envie d'envoyer à des éditeurs, parce que j'étais sûre, mais sûre à 100%, pas 99%, mais 100% de la réponse négative.
Au pompier ?
Non. Bah non, parce qu'après, je l'ai envoyé. Je me suis auto-édité. Et après, je l'ai envoyé. J'ai eu le courage quand j'ai vu que j'avais, que j'étais numéro 1, etc. Et de nouveau, j'ai reçu les lettres de refus.
Ouais, vous avez une offre quand même d'une maison d'édition.
Ils sont venus me chercher par Facebook.
Ils sont venus vous chercher
je
par Facebook.
Je leur avais pas envoyé le manuscrit. Donc en fait, j'avais quand même raison. Le texte correspondait pas au genre de l'époque. Et on m'a dit plusieurs fois non. Et aujourd'hui, j'ai gardé ces lettres de refus parce que forcément, ça.
Ah, vous les gardez, ouais.
Bah, ça conforte que parfois quelqu'un vous dit non, vous n'avez pas de talent, ou ce texte n'a pas la valeur que.
On vous a écrit que vous n'aviez pas de talent?
Non, pas du tout. Mais ça, voilà. Quand on écrit, on peut penser, oh là là, mon Dieu, un texte veut tout dire. Et en fait, non, on m'a pas écrit ça.
Et qu'est-ce que vous a apporté la maison d'édition une fois qu'elle vous a récupéré?
L'accès aux lecteurs, l'accès à un public extrêmement large, l'accès aux librairies, les rencontres avec les lecteurs en salon, la vie à l'étranger aussi de ces romans, ça c'est assez extraordinaire.
Le travail sur le texte un peu.
Le travail sur le texte un peu. Au départ, ils ne voulaient pas. Enfin, ils m'ont pas proposé. Ils m'ont dit non, on laisse comme ça. Moi, je me suis dit.
C'est-à-dire que ça marchait tellement bien en auto-édition, ils n'allaient pas intervenir.
C'était un peu ça. Et moi, j'aurais quand même dit, mais c'est mon premier jet. Moi, quitte à être accompagnée, moi, ce que j'attends d'un éditeur, c'est aussi de progresser dans mon écriture, donc d'avoir des conseils.
Et dans quelle mesure est-ce que vous sentez que vous avez progressé depuis Mémé dans les orties ?
Avant, je voulais juste raconter une histoire et je m'en fichais peut-être un peu, en tout cas sur le premier jet de Mémé dans les orties, des mots que j'utilisais. La phrase était fluide et tout se tenait très bien. Maintenant, c'est vrai que parfois, j'essaye de glisser plus de symboles ou de phrases qui peuvent rester et marquer les esprits.
Qu'est-ce qui vous pousse à écrire aujourd'hui? Qu'est-ce qui rend l'écriture nécessaire, en fin de compte?
En fait, j'ai l'impression de ne pas être la seule à rêver d'un monde un peu plus solidaire. Et donc, ces histoires qui, moi, me touchent, moi, je sais que j'ai été sauvée par les livres. J'ai grandi dans une HLM où j'avais vu sur les piscines des plus riches et moi je devais me contenter entre guillemets de mes livres, mais j'ai fait les plus beaux voyages, j'ai fait mes lointains voyages avec des livres.
Alors c'est une envie de transmettre aussi, Aurélie?
Complètement, et je pense surtout que les livres, il faut les mettre entre toutes les mains, et notamment des enfants. Moi je sais à quel point quand on est enfant on a besoin de ça.
Alors justement, c'est un texte sur la transmission que vous avez choisi de nous écrire ce matin, et c'est moi qui vais jouer l'enfant. Vous avez choisi, vous m'avez écrit des relances, hein.
Oui.
C'est moi qui vais faire l'enfant. On y va?
Alors attendez un instant. C'est bon.
Raconte-moi le monde d'avant.
Viens, prends ma main, je vais te montrer. Commençons par la fin. Tu vois, rien ne change et pourtant tout change. L'autre matin encore, la voisine me disait « catastrophée ». Il n'y a plus de saison, ma bonne dame. Mais le jour suivant, elle affirmait rassurée « tout va bien ». Il n'y a plus d'abeilles, mais il y a des drones pollinisateurs. Tu vois, mon enfant, nous trouvons des solutions à tous les problèmes que nous sommes en train de créer. Mais penser avec son cerveau et laisser son cœur de côté, c'est tout sauf très malin.
Mais pourquoi n'écoutent-ils pas leur cœur plutôt que leur cerveau?
Parce qu'on a appris aux gens que l'argent, c'était ce qu'il y avait de plus important. Et pourtant, nous le savons tous, le seul luxe que personne n'aura jamais, c'est le temps. Depuis des années, on se prend pour des apprentis sorciers. On joue avec le feu, on souffle sur des braises. Notre planète est comme une cathédrale en flammes. Quelques pompiers pour éteindre, tout le monde qui regarde, tremblant et impuissant. Et quand ce sera la fin, on donnera tous sans compter, pour essayer de survivre, pour être sauvés. Mais l'argent, ça ne sauve pas. L'argent, ça ne se mange pas. L'argent, ça ne se cultive pas. L'argent, ça rend bête parfois. Égoïste, souvent. Et plus on en a, plus on en veut.
Comme le chocolat?
Oui, un peu.
Mais qui laisse faire ça?
Nous tous, en réalité. Tous ceux qui oublient de résister. Tous ceux qui ont arrêté de rêver.
Alors on en est là? Je croyais que les adultes avaient toujours raison.
Oui, sauf lorsqu'ils ont tort. Et malheureusement, cela arrive souvent. Nous, les adultes, on a couru toute notre vie pour faire mille choses. pour fuir l'ennui, pour s'occuper et oublier notre mort inéluctable que l'on essaie de repousser toujours plus loin. Mais en essayant de gagner du temps, en vivant dans un monde où tout doit aller plus vite, être plus simple ou plus pratique, on a parfois bien du mal à ralentir, à profiter, à respecter, à transmettre ou à vivre, tout simplement. Contrairement à nous, la nature prend toujours son temps. Changer radicalement les choses implique d'accepter une temporalité différente. On comprend souvent trop tard qu'en essayant de gagner du temps, en réalité, on accélère notre perte.
Mais tout n'est pas perdu quand même.
Non. Aujourd'hui, j'ai envie de croire que tout peut changer. Avec des petits riens. Avec des si, surtout. Si on s'y met tous. Si on commence à agir maintenant. Un pas après l'autre. Chacun le sien.
Ah, comme dans l'histoire du colibri où chacun doit faire sa part.
Oui. Nous avons besoin de tous les courageux, de tous ceux qui se sentent parfois bien seuls. Nous avons besoin de rêveurs, de visionnaires, de gens qui pensent différemment, à contre-courant, qui peuvent nous aider à remonter le temps, à écrire une autre fin pour l'histoire. Viens, grimpe dans le bus. Installe-toi en face de moi, tu verras mieux. Tu verras mieux tout ce qu'on laisse derrière nous.
Oh tiens, c'est bizarre, le bus il roule en marche arrière. C'est drôle.
Oui, tu as contresens. Tu as vu, tout est une question de point de vue. Tout change et rien ne change. L'histoire se répète indéfiniment. Il faut apprendre des erreurs du passé et écouter nos ancêtres pour avancer dans le sens qui est le bon. Pas toujours celui que l'on croit d'ailleurs. Parfois, faire marche arrière vaut mieux que foncer droit dans le mur.
Qu'est-ce que je peux faire, moi, alors ?
Garde ma main bien forte dans la tienne. Car désormais, mon enfant, c'est à toi de me montrer le chemin. Sinon, aujourd'hui, ce sera vraiment le début de la fin.
Merci Aurélie Valogne, merci infiniment
merci.
D'être venue faire un tour dans cette émission. Je rappelle que La cerise sur le gâteau est publiée aux éditions Mazarine et que le recueil de nouvelles Exil aussi est publié au Livre de Poche en soutien à l'UNICEF. Il est également disponible en librairie tout de suite. Les médias, Sonia De Villers, juste après ça.
Merci.
Auront perdu beaucoup de temps, égarés dans des paysages qui ne nous allaient pas vraiment, auront goûté en solitaire aux saveurs de tant de saisons, sans l'avoir prévu, par temps clair, sur beau rivage nous échouerons. Avant convoité monde meilleur, à force de marche entravée, dans le vin déroulé des heures, avons révoqué la douceur sur des chemins de roses enfouies. Bientôt ne resterait d'ailleurs qu'ici. Nous échouerons à beau rivage. L'endroit parfait qui nous attend, auront perdu beaucoup de temps par d'autres lieux pris en otage, auront connu en solitaire les teintes de tant d'horizons, sans l'avoir prévu, par temps clair, sur beau rivage nous échouerons. Nous sommes heurtés à des barrages, à des croix tout juste dressées, à travers l'un des marécages, sans chemin avons repoussé, essuyant des larmes d'orage, au fond de vallées dépeuplées. Nous échouerons à beau rivage, l'endroit parfait qui nous attend, par-delà lande et marécage, avons perdu beaucoup de temps.
Beau rivage, Dominique A sur France Inter. Et